Luc chapitre 2. La semaine dernière, notre frère Marc nous a parlé de Zacharie, d'Élisabeth et donc de la venue de Jean-Baptiste. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, donc relaté dans ce texte de Luc chapitre 2. Et donc oui, pour préparer donc la venue du Messie dans le monde, Dieu a choisi souverainement les parents de celui qui allait marcher devant Dieu, il est dit, avec l'esprit et la puissance d'Élie, dans Luc chapitre 1 verset 17, donc il s'agit de Jean-Baptiste. Et Luc souligne que ses parents, donc Zacharie et Élisabeth, étaient tous deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quant aux parents de notre Seigneur Jésus, Marie, celle qui va le mettre au monde, et Joseph, son père adoptif, ils sont décrits comme étant des personnes qui avaient donc la crainte de Dieu. On a lu le texte de Matthieu ce matin, où il est dit que Joseph était un homme de bien. Et Marie et Joseph étaient toujours disposés à accomplir la volonté de Dieu, quels que soient les risques encourus, la honte, le mépris, et jusqu'à même la lapidation. Et cette réponse de Marie caractérise bien cet état d'esprit qu'ils avaient, quand Marie dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et donc, lisons maintenant ce que Luc nous dit concernant la naissance de Jésus dans Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qui soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Donc, Luc, l'auteur donc de cet évangile, dit dans le chapitre 1, verset 3, qu'il a fait des recherches exactes. Il dit ça à Théophile, et il nous donne des éléments historiques qui attestent de la véracité de la naissance de Jésus dans ce monde. Donc, nul ne peut nier ce fait-là. Oui, Jésus, il a bien existé, il est bien venu dans ce monde. Et les spécialistes disent que le Seigneur serait né entre moins 6 et moins 4 avant Jésus-Christ. Donc on dit moins 6, moins 4 avant Jésus-Christ, c'est parce que c'est un moine, il s'appelle Denis le Petit, qui se serait trompé dans la datation en voulant définir l'ère chrétienne. Donc, et c'est parce que justement, Luc précise que c'est du temps de César Auguste, il parle de Quirinus, et puis Hérode le Grand était encore là lorsque Jésus-Christ est né. Donc c'est ce moine qui s'est trompé. Et donc, il aussi, la date du 25 décembre, que tout le monde dit Jésus est né le 25 décembre, c'est une date qui a été choisie par les chrétiens au 4e siècle pour remplacer certaines fêtes païennes qui se déroulaient dans la même période. Donc, si vous cherchez, vous avez beaucoup de fêtes païennes. Et pour un peu attirer tout le monde au christianisme, ils ont choisi cette date-là. Mais voyez que nous ici, nous nous attardons pas à cette date du 25 pour parler de la venue de Jésus. Nous le faisons aujourd'hui. La semaine prochaine, nous mettrons l'accent, comme on l'a dit, on va faire un culte spécial pour parler de la venue de Jésus parce que c'est une réalité. Et si Jésus n'était pas venu, nous ne serions pas là. Et donc, nous voulons l'honorer et le glorifier et le remercier parce qu'il a bien voulu s'abaisser comme nous l'avons chanté et comme l'atteste la parole de Dieu. Donc le fait que la Bible ne donne pas la date de naissance de Jésus n'enlève en rien la réalité de sa naissance. Ce qui est important de retenir, c'est que Donc Jésus est venu. Et nul ne peut remettre en question cette vérité. Et la parole de Dieu précise clairement les raisons de sa venue. Si Jésus-Christ est venu, c'est bien pour une chose bien précise. Il a vécu parmi les hommes, il a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour le salut des hommes. Et c'est lui-même qui a dit dans Marc, au chapitre 10, verset 45, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ reviendra. Et nous l'attendons. Et ce passage-là nous encourage et nous allons voir que ces personnes qui ont entendu l'annonce de la venue de Jésus-Christ, Siméon aussi qui attendait la venue de Jésus, et cette femme, cette femme veuve, Anne, aussi qui l'attendait et qui servait le Seigneur, ces personnes avec les bergers sont là aussi pour nous encourager, à nous qui savons que Jésus-Christ est venu, mais nous savons aussi qu'il va revenir. Ces personnes sont là aussi pour nous encourager à attendre la venue du Seigneur, tout comme Siméon attendait la venue du Seigneur en son temps. Ce passage nous donne quelques précisions concernant notre Seigneur, mais aussi ses parents. Joseph et Marie, dans les versets 4 à 6, bien qu'habitant à Nazareth, en Galilée, étaient originaire de Bethléem en Judée, donc à plus de 100 kilomètres au sud. Donc Marie a dû partir alors qu'elle était enceinte, traverser les montagnes et faire plus de 100 kilomètres avec Joseph pour descendre jusqu'à Bethléem. Dieu avait déjà fait à David la promesse qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône, et cela dans 2 Samuel chapitre 7, bon, je peux lire avec vous ce passage, donc 2 Samuel chapitre 7, dans ce passage David il dit qu'il veut construire une maison à l'Éternel, et le Seigneur lui annonce dans 2 Samuel chapitre 7 au verset 13, au verset 12, je peux déjà lire au verset 12, il dit « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. » Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc, Nathan annonce cela de la part du Seigneur. Il parle des descendants directs de Salomon et des autres enfants et descendants de David, mais il parle aussi de Jésus, celui qui sera assis pour toujours sur le trône de David. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, et ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Dans Luc chapitre 1, il est parlé de Jésus, il est dit qu'il sera appelé fils du Très-Haut ou fils de Dieu, dans Luc chapitre 1 verset 35. Donc c'est lorsque l'ange annonce cela à Marie et à Joseph, il lui dit, celui qui naîtra de toi, eh bien, c'est Dieu. Il est appelé fils du Très-Haut, c'est un terme qui désigne la divinité de Jésus. Jésus, l'égal du Dieu Très-Haut. Il est dit au verset 33 de Luc que son règne est éternel. Donc il ne s'agit pas d'un homme comme vous et moi. Et le Seigneur va, par l'action du Saint-Esprit, permettre à cette jeune femme, Marie, de porter l'enfant Jésus-Christ. Le descendant de David, celui qui doit régner éternellement sur le trône donc de David, le fils donc du Dieu Très-Haut, celui qui est digne de recevoir toute l'adoration, le texte nous montre qu'il est né, et nous savons, il est né dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, c'est ce qu'il dit au verset 7. Et à la fin de son ministère, notre Seigneur, lorsqu'il prie dans Jean chapitre 17, il dit à son Père, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Avant même de venir, il existait déjà. Et on l'a lu dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et celui qui était dans la gloire, il a quitté tout cela. Il s'est abaissé, il est venu parmi les hommes. Et là, il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Le sauveur du monde, celui qui a tout créé, celui par qui tout existe et pour qui tout existe, il a quitté sa gloire, frères et sœurs, pour naître dans une grande pauvreté. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 9, il dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et dans le texte, il y a plusieurs éléments qui montrent la pauvreté de Marie, de Joseph et donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parlé que Marie, pour sa purification, donc 40 jours après donc la naissance de Jésus, au lieu d'offrir un agneau d'un an et d'un jeune pigeon selon la loi, dans Lévitique chapitre 12, verset 6, au lieu d'offrir un agneau, au lieu d'offrir un jeune pigeon, qu'est-ce qu'elle va offrir? Elle va offrir deux tourterelles. Et le texte dans Lévitique dit, c'est si les gens n'ont pas l'agneau qu'il faut, s'ils n'ont pas les jeunes pigeons, ils vont offrir deux tourterelles. Et ça, c'est à cause de sa pauvreté. Joseph, nous savons, était un charpentier. Et après Luc chapitre 2, on parle lorsqu'il avait 12 ans, et après on ne parle plus de Joseph. Et donc, très tôt, notre Seigneur, étant l'aîné, il a dû prendre soin de sa mère, et très tôt, il a dû aller aussi travailler comme charpentier. Oui, celui qui a quitté la gloire céleste, il s'est abaissé, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Donc Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les hommes de la manière le plus humble qui soit. Et si lors de sa première venue dans le monde, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, qu'en est-il aujourd'hui pour nous? Si, lorsque Jésus-Christ est venu, il n'y avait pas de place pour lui, ils ont dû trouver un petit coin. Est-ce que aujourd'hui, Jésus, est-ce qu'il trouve une place? Est-ce qu'il trouve la place aussi dans votre cœur, dans votre vie? Quelle place réservons-nous à Jésus-Christ aujourd'hui? Comment Jésus est-il accueilli dans ce monde encore aujourd'hui? quand on voit que on ne veut même plus parler de Jésus. Oui, on veut les guirlandes, on veut la fête, on veut offrir des cadeaux. On ne parle que de ça. Mais est-ce qu'on parle de Jésus? Non. En tout cas, notre rôle, c'est de parler de Jésus. Et c'est pour cela que nous voulons distribuer des traités, pour rappeler aux gens pourquoi Jésus-Christ est venu, qui est Jésus-Christ. Mais quel accueil est fait à Jésus-Christ encore aujourd'hui? Le peuple d'Israël attendait donc la venue de ce Messie. Et il connaissait les textes, il parlait de sa naissance à Bethléem, dans Michée, chapitre 5, verset 1. Il connaissait même l'époque de sa naissance, dans Daniel, chapitre 9, verset 25. Comment il allait naître d'une vierge. Et même lorsque Hérode, il va apprendre, les mages vont lui dire qu'ils sont venus adorer le roi des Juifs. Hérode va aller voir les scribes, les personnes qui connaissaient la loi, pour leur demander, mais où devait naître ce Messie? Et donc, ils vont donner des précisions exactes à Hérode. Mais ces responsables religieux et politiques, ils savaient que donc, le Messie était né. Et malgré cela, ils ne sont pas allés pour l'adorer. Et de la même manière que la parole de Dieu a annoncé la première venue du Messie, parce qu'ils avaient les textes, ils savaient exactement où il devait naître, à quelle période, etc. Et donc, ils étaient au courant, ils étaient avertis. Le Seigneur nous avertit aussi par sa parole qu'il va revenir. Et si nous nous transposons par rapport à ces personnes qui attendaient la venue du Messie, nous, aujourd'hui, nous pouvons nous mettre à leur place et dire, voilà, oui, Jésus-Christ, il va aussi revenir. Il a dit dans Matthieu, chapitre 25, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. » Dans Matthieu 25, verset 31 et 32. Il a dit à ses disciples, il faut que je m'en vais, je dois m'en aller pour aller vous préparer une place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Dans Actes chapitre 1, lorsqu'il a été enlevé, donc les anges disent aux apôtres, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc oui, Jésus-Christ va revenir. Nous l'attendons. Ce Messie qui est venu une première fois, il est remonté au ciel et il va revenir. Et en tant que chrétien, peuple de Dieu, nous devons attendre ce retour. Et si la venue du Messie donc, était une bonne nouvelle, qui était une source de joie, pour les bergers, pour toutes ces personnes qui étaient là, c'est aussi une source de joie pour nous de savoir qu'il va aussi revenir. Les bergers en Judée, Siméon et Anne, attendaient comme tout le peuple la consolation d'Israël. Ils attendaient la venue de ce Messie. Aujourd'hui, nous pouvons dire donc que ce Messie, il est venu. C'est Jésus-Christ. Et il y a cette autre bonne nouvelle pour chacun, que Jésus qui est venu donc une première fois reviendra bientôt une seconde fois sur cette terre. Et ce ne sera pas pour donner sa vie en rançon, mais ce sera pour régner. Alors la question c'est, est-ce que vous êtes prêts pour la venue du Seigneur? Est-ce que vous l'attendez vraiment de tout votre cœur? Et s'il revient, est-ce qu'il vous trouvera faisant ce à quoi il vous a appelé? En tout cas, dans ce passage, j'aimerais nous encourager à nous préparer aussi à la venue prochaine de notre Seigneur. Et pour vous qui n'avez pas encore mis votre foi en lui, préparez-vous aussi à sa venue. Parce qu'il viendra pour non seulement pour nous prendre avec lui, pour être que nous soyons avec lui, mais il viendra aussi pour juger. Et ces bergers, Siméon, mais aussi Anne, nous donnent aussi une manière, des exemples pour voir comment nous préparer à la venue prochaine de notre Seigneur. Déjà en étant réceptif à son message, et comme ces bergers qui ont entendu ce message que oui, que le Messie, il est né, ils étaient réceptifs et ils ne sont pas restés indifférents. Siméon, lui, il attendait fidèlement sa venue. Et puis, on voit que Anne, elle servait avec persévérance pendant toutes ces années. Donc oui, comme ces personnes, préparons-nous à la venue prochaine de notre Seigneur. Les bergers étaient réceptifs à son message dans les versets 8 à 20. Ils ont bien reçu le message que l'ange a annoncé. Le verset 10 dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Les bergers ont bien reçu le message que l'ange a annoncé. Ce message est une bonne nouvelle, il est dit, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle, l'évangile, par définition, c'est ce que ça veut dire, l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui annonce que celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et encore aujourd'hui, ceux qui entendent cette bonne nouvelle et qui mettent leur foi en la parole de Dieu, eh bien, ils sont sauvés. Le Romain, l'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée. Et dimanche après dimanche, jour après jour, vous entendez cette bonne nouvelle. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez rester indifférent ou est-ce que vous serez réceptif à ce message, cette bonne nouvelle qui vous est annoncée? Ce message, c'est que celui qui est né il y a donc plus de 2000 ans, il est dit qu'il est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Jésus, celui qui est venu, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui peut vous sauver. C'est lui le Christ, celui qui était annoncé, que c'est les bergers, que Siméon, que les autres attendaient. Il est aussi le Seigneur. Il est Dieu. Et donc c'est lui que vous devez adorer et personne d'autre. Et donc les bergers ont reçu ce message. Ils ont entendu que aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Comment allez-vous réagir après avoir entendu cette bonne nouvelle? Et là, dans les versets 15 à 16, on voit quelle a été l'attitude de ces bergers après avoir entendu cette bonne nouvelle. Ils allèrent à la rencontre du sauveur. Ils ne sont pas restés là avec leurs animaux, avec leurs moutons. Ils sont partis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 15? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Ils ont entendu ce message. Et ils ne sont pas restés là comme ça à dire, voilà, bon, on va attendre demain pour voir ce qui va se passer. Allons, et ils sont partis en hâte. Et ils sont allés au plus près de cet enfant pour voir qui il était et pour l'adorer. Comment allez-vous réagir par rapport au message, cette bonne nouvelle que vous entendez? Ça fait combien de temps que vous l'entendez, cette bonne nouvelle? Est-ce que vous allez rester là ou est-ce que vous allez dire, il faut que j'aille vers lui? C'est lui que j'ai besoin. C'est lui le Sauveur, le Christ, le Messie. C'est lui le Seigneur. Jésus revient bientôt. Et si vous n'allez pas vers lui, si vous ne mettez pas votre foi en lui, il va revenir pour vous juger. C'est lui qui est, à qui le Père a remis tout jugement. Il va revenir et ça sera pour vous juger. Et vous ne pouvez pas lui dire alors que vous ne saviez pas. Vous n'avez pas entendu cette bonne nouvelle. Et donc les bergers repartent, louant le Seigneur, et ils adorent le Seigneur, et ils louent le Seigneur, ils sont repartis dans la joie, et j'espère que c'est ce qui se passera aussi pour vous. Siméon attendait, lui, fidèlement, la venue de ce Messie. Dans les versets 25 à 35, on voit que c'est la seule fois qu'il fait mention de cet homme dans la Bible. Il nous est décrit. Il était juste et pieux. Il attendait la venue du Messie, la consolation d'Israël. Il était conduit par le Saint-Esprit qui était sur lui. Et il reçut la promesse qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Sauveur. Cet homme est décrit comme étant juste et pieux. Comment attendons-nous notre Sauveur? Comment attendons-nous notre Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut nous décrire aussi comme cela, comme étant des hommes et des femmes qui attendent justement leur Seigneur, leur Messie, comme étant des hommes et des femmes justes et pieux, des hommes et des femmes qui sont dans l'attente de la venue de leur Seigneur, des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est vraiment cela qui nous caractérise, frères et sœurs? Ou est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui nous laissons prendre par les choses de ce monde et qui oublions cette réalité que Jésus-Christ, il revient bientôt? Et lui, pendant toute sa vie, Siméon, il attendait et le Saint-Esprit lui a donné cette assurance. Oui, tu vas le voir. Est-ce que nous attendons vraiment le retour de notre Seigneur? Et dans l'attente de ce retour, est-ce que le Seigneur peut dire de nous, oui, ce sont des hommes et des femmes justes et pieux qui attendent, conduits par le Saint-Esprit? Pour être déclaré juste par Dieu, nous savons que il faut mettre notre foi en Jésus. Dans la version Scofield, il est dit que l'homme est juste parce qu'il est droit devant Dieu, et il est droit devant Dieu parce qu'il s'est efforcé d'observer d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Ainsi, sous l'ancienne alliance, le juste était un homme pécheur qui, pour le pardon de ses péchés, mettait sa confiance dans le Messie à venir et offrait par la foi le sacrifice demandé. Les justes de l'Ancien Testament, c'était ça. Et donc Siméon, il était encore sous l'ancienne alliance. Et il avait mis sa foi dans la parole de Dieu qui allait avoir un Messie. Et donc, dans le Nouveau Testament, puisque le Messie est venu, il dit que tous ceux qui mettent leur foi en lui, ils sont déclarés justes par Dieu. Et nous avons lu ce texte de Romains chapitre 3 ce matin. Donc, pour être déclaré juste, il faut croire en celui qui a été envoyé, qui est ressuscité. Et la Bible nous demande maintenant de vivre aussi par la foi. Et tout comme Siméon, ce qui doit nous caractériser, c'est notre piété. Et dernièrement, les sœurs ont eu une réunion d'âme, et c'était ça le thème, ils parlaient de la piété. Et qui est un amour et un attachement aux choses de Dieu, un respect des choses aussi religieuses. Qu'en est-il de notre piété? Que notre piété, frères et sœurs, ne soit pas, comme l'a dit Osée, comme la nuée du matin ou comme la rosée qui bientôt se dissipe. Notre piété ne doit pas être comme cela. Paul dit que dans les derniers temps, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les hommes seront irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Et donc, pour attendre fidèlement la prochaine venue du Messie, de notre Seigneur, non seulement on doit être déclaré juste par Dieu, en ayant la foi en Jésus-Christ, mais tous les jours de notre vie, nous devons nous dire que c'est peut-être aujourd'hui que le Seigneur va revenir. Donc je dois être prêt, parce que c'est peut-être aujourd'hui qu'il revient. Et la piété, une personne juste et pieuse, c'est une personne qui attend constamment le retour de son Seigneur et qui veut être prêt. Donc lorsque nous vivons dans l'attente du retour de Jésus-Christ, nous ferons aussi preuve de plus de piété et nous nous laisserons davantage diriger par le Saint-Esprit et comme Siméon l'a fait. La dernière chose, c'est que pour nous préparer à la venue prochaine de notre Seigneur, nous devons le faire en le servant avec persévérance comme l'a fait Anne. Dans les versets 36 à 38, l'exemple qui nous est donné nous montre que l'on doit servir notre Seigneur. Servir notre Seigneur, quel que soit notre âge. Elle était âgée de 80 ans ou plus. On doit servir notre Seigneur, quelle que soit notre situation personnelle. Elle était veuve depuis très 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 longtemps. Et ça ne l'a pas empêchée de servir le Seigneur, quelle que soit sa situation. Et cette femme a servi dans le temple fidèlement, nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Et après sa rencontre avec le Seigneur Jésus, elle témoignait en parlant de lui à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quel exemple encore pour nous de cette femme-là qui servait le Seigneur et qui parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient donc la délivrance de Jérusalem. L'Église a un besoin urgent de personnes qui prient. L'Église a un besoin urgent de personnes qui prient pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres et qui ont besoin d'être délivrés de la puissance du malin. L'Église a un besoin urgent de personnes qui prie pour notre société qui vit dans la décadence spirituelle et morale. L'Église a un besoin urgent de personnes qui prient pour plus de piété dans la vie des chrétiens. Des personnes qui donnent la priorité aux choses de Dieu dans leur agenda. L'Église a un besoin urgent de personnes qui prient pour une connaissance plus approfondie de la parole de Dieu, afin que lorsque notre Seigneur, il reviendra, qui trouve encore la foi. Le Seigneur, c'est lui qui l'a dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui prient pour que lorsque le Seigneur revienne, qu'ils trouvent la foi. Et cela, c'est en ayant tous une vie beaucoup plus pieuse. Nous avons besoin d'être enracinés, fondés dans le Seigneur, fondés dans sa parole. Donc, ne laissons pas l'âge ou les difficultés présentes nous laisser penser que nous ne servons plus à rien. Le Seigneur a encore besoin de vous. Le Seigneur a encore besoin d'hommes et de femmes qui prient. Le Seigneur a encore besoin de femmes comme Anne. Et si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce que il veut encore sauver des hommes et des femmes. Il use encore de patience. Amos, il a dit dans Amos chapitre 4, verset 12, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Notre Seigneur, il dit dans Matthieu chapitre 24, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous pouvons nous préparer à la rencontre de notre Dieu et être prêt lorsque notre Seigneur reviendra. En étant donc réceptif à son message, l'évangile, cette bonne nouvelle, comme les bergers l'ont été, en ayant une vie chrétienne pieuse qui soit digne de notre vocation, mais aussi en servant notre Seigneur avec persévérance, quel que soit notre âge ou les difficultés personnelles que nous pouvons rencontrer. Cela ne doit pas nous faire penser que nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit. Donc, comment allons-nous réagir par rapport à la parole? Ne soyons pas comme ces scribes, comme ces pharisiens, qui savaient tout de Jésus, qui connaissaient la parole, mais ils n'ont pas eu la foi pour saisir ce que disait cette parole. Donc, que le Seigneur nous aide et qu'il nous prépare. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu et nous voulons nous souvenir de ça, nous voulons le louer, nous voulons le célébrer, mais nous ne voulons surtout pas aussi oublier qu'il reviendra. Donc, que sa parole puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Amen.